Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Comment vit-on le long de la frontière russe à Narva, en Estonie, tout au nord de l'Europe ? Depuis la guerre en Ukraine, le quotidien est anxiogène. Quelle défense en Europe avec moins d'engagement américain dans l'OTAN ? Ce sera l'analyse de Gesine Weber. Notre revue de presse sonore avec Starlink, l'Italie et Elon Musk. Enfin, le sexisme en cuisine existe bel et bien. Les femmes chefs britanniques lancent l'alerte. Voilà le programme dans Accent d'Europe aujourd'hui. C'est sans doute dans cette partie de l'Union européenne que la menace russe est vécue avec le plus de violence et de complexité. Tout au nord de l'Europe, Narva, troisième ville d'Estonie, juste à la frontière avec la Russie, est peuplée à 90% de russophones, héritage de la période soviétique. Des habitants qui sont désormais estoniens et donc citoyens européens. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la frontière avec la Russie n'est ouverte qu'aux seuls piétons. C'est un des nombreux changements qui bouleverse ce territoire et qui oblige les citoyens à se positionner. Reportage à Narva de Marielle Vituro.
À Narva, le grand parking était jusqu'en 2024 le cœur battant de la ville frontalière. C'est là que transitaient toutes les voitures en partance ou de retour de Russie. Aujourd'hui, la frontière ne se traverse plus qu'à pied. Il n'y a plus que les bus qui amènent les Russes qui veulent rentrer chez eux. La ville se vide. Depuis le début de la guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine, les Russes ne peuvent plus venir en Estonie. Et cela affecte grandement la situation économique de Narva, comme le décrit la maire Katri Raik.
La vie à Narva avait déjà été touchée par le début du conflit en Ukraine en 2014. Depuis, il y a de moins en moins de touristes. Et maintenant, il est clair que le chiffre d'affaires commercial de Narva a diminué de près de 30%, ce qui constitue bien sûr un coup dur pour la ville.
Milan Skubin est un jeune activiste politique. Il se présentera aux élections municipales de l'automne pour réveiller la ville. Il a donné rendez-vous en face de la mairie, un bâtiment historique à la façade rouge, un rare vestige de l'histoire à avoir survécu au bombardement massif de 1944 par l'armée soviétique.
La plupart des habitants de Narva sont venus pendant la période soviétique. Ils ont toujours les vieilles habitudes. Ils ont peur d'être punis, déportés, tués. S'ils s'expriment contre les autorités, les gens sont très passifs ici, au niveau politique.
La hausse du coût de l'énergie impacte fortement les habitants de la ville. Un tiers des habitants sont des retraités. La Russie fait toujours peur. Milan se souvient de ce qui s'est passé l'été dernier à Narva.
C'est parfois un peu effrayant ici. Il faut se souvenir que l'été dernier, les Russes ont fait voler un immense ballon d'espionnage. Les gens ici parfois font des blagues sur le séparatisme. Ils font un parallèle avec l'Ukraine et la République populaire de Donetsk. Ils parlent de la République populaire de Narva qui pourrait être créée. Rire de cela permet d'avoir moins peur.
La mairie de Narva aussi se prépare, comme toutes les mairies en Estonie, souligne Katri Raik.
Bien sûr, nous avons un plan de crise pour la ville. Nous faisons des exercices, nous travaillons en étroite collaboration avec les services de secours. Je parle à notre chef de la police pratiquement tous les jours, à notre chef de la police secrète quotidiennement. Alors, il est faux de penser que nous ne sommes pas préparés aux crises. Bien sûr, nous nous préparons aux crises, mais nous essayons de le faire de manière à ce que notre vie quotidienne ne soit pas perturbée.
À l'université, Aet Kisla donne des cours d'administration publique. Elle constate à quel point la langue estonienne s'est imposée.
Je pense que de plus en plus de personnes russophones ici ont réalisé que Poutine et l'État russe sont criminels. Même les gens qui n'avaient pas de position tranchée jusqu'à maintenant comprennent que la situation est mauvaise depuis le début de la guerre à grande échelle. Si on parle de provocation ou de quelque chose qui viendrait de Russie, évidemment que cela peut se produire. La Russie est tout sauf rationnelle.
Alors, à Narva, on préfère toujours parler d'autre chose que de cette frontière. Mais une chose est sûre, chacun a désormais choisi son camp.
« Recomposition de tout l'ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale, redéfinition du rôle de l'OTAN, sursaut de défense européenne et débat sur une autonomie stratégique, sans parler de dissuasion nucléaire. On va parler de tout cela avec vous, Gesine Weber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité au German Marshall Fund à Paris. Peut-on dire que les Européens sont en train de sortir d'une forme de torpeur face à la menace russe et aux défis sécuritaires?
Je dirais plutôt qu'il y avait une forme de naïveté. La plupart des Européens savaient qu'il fallait faire plus, mais ils ne l'ont pas fait. Ce qui est quand même surprenant pour la plupart des Européens, c'est vraiment l'amplitude, l'ampleur de ce changement, et c'est aussi la rapidité de changement.
Oui, beaucoup de pays ont changé radicalement, des atlantistes très convaincus, on pense à l'Allemagne, le Danemark, même la Pologne.
Oui, tout à fait. On observe désormais qu'il y a des véritables changements de pensée stratégique dans ces pays. Je rappelle que, par exemple, après l'élection américaine, il y avait le premier ministre polonais qui a partagé sur Twitter que maintenant est le moment pour l'autonomie stratégique européenne. C'était quand même une narrative qu'on n'entendait pas trop de la part de la Pologne avant. Après les élections allemandes, en février, le chef du parti conservateur, probable chancelier, Friedrich Merz, a appelé à l'indépendance des Européens, des États-Unis, ce qui est surtout pour l'Allemagne vraiment une position extrêmement surprenante et un véritable virage de 180 degrés.
Alors, en pleine crise du lien transatlantique, est-ce que les Européens peuvent encore compter sur cet allié américain ou doivent-ils se préparer finalement très très vite à assurer seule leur sécurité?
En effet, Donald Trump a déjà partiellement donné la réponse à cette question parce qu'on a vu que les États-Unis ont lâché l'Europe sur le dossier ukrainien, en accusant le président ukrainien Zelensky de jouer avec une troisième guerre mondiale. Les États-Unis ont clairement repris le narratif russe, ils ont arrêté le soutien à l'Ukraine et aussi exclu les Européens de toutes les négociations, ou plutôt les discussions qui ont été lieu jusqu'ici. Donc c'est clair que les Européens doivent faire plus et qu'ils doivent aussi s'apprêter à l'idée que Washington ne sera pas là pour les protéger si besoin.
Oui, parce que justement, ce désengagement américain au sein de l'OTAN, ça veut dire aussi une fragilisation de la dissuasion nucléaire américaine. On parle de plus en plus d'une dissuasion européenne ou d'une dissuasion française élargie, ça veut dire quoi?
Donc, tout d'abord, je pense qu'il est important de souligner que le président de la République a très souvent déjà souligné que les intérêts vitaux de la France ont aussi une dimension européenne. Et c'est cela dont on parle quand on parle de dissuasion élargie. Donc l'idée du concept de la dissuasion élargie, c'est qu'il y a un pays qui dispose de certains moyens, soit conventionnels, soit de l'arme nucléaire, qui va élargir la protection qu'assurent ses moyens, ses capacités, à d'autres pays.
Ça veut dire très concrètement, par exemple, que les Américains qui ont des bombes nucléaires stationnées dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie, pourraient les retirer et que ça serait la France qui devrait positionner ses propres bombes nucléaires?
Alors, c'est moins une question du positionnement des bombes. C'est plutôt une question de crédibilité et plutôt une question d'assurance politique. Il faut comprendre que les États-Unis disposent en total d'à peu près 5000 têtes nucléaires. Pour la France, on est à peu près 300. Donc c'est absolument pas le même niveau en termes de pure masse dont on parle. Mais l'élément le plus important de la dissuasion sont les assurances et la crédibilité. Donc si la France peut assurer à la fois l'Allemagne en tant que protégé, mais aussi d'adversaire, surtout la Russie, que si une certaine ligne rouge est franchie, il y aura une réponse. Et un adversaire est convaincu que cette réponse sera là. Dans ce cas, une dissuasion peut fonctionner.
Merci, Gesine Weber.
Merci à vous.
En Italie, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, n'est plus sûre de vouloir confier ses communications sécurisées, donc y compris militaires, au réseau de satellites américains Starlink, propriété d'Elon Musk. On en parle beaucoup dans la presse italienne, Franceline Beretti. Giorgia Meloni s'interroge.
La présidente du Conseil l'envisageait pourtant sérieusement il y a quelques mois, mais depuis, le monde a basculé. Même une atlantiste convaincue comme Meloni commence à avoir des doutes. Laisser à Musk le contrôle des communications stratégiques de son pays ne lui semble plus très judicieux, raconte la Repubblica. Le quotidien rapporte que le doute est partagé par tous les responsables de Fratelli d'Italia, le parti de Meloni. Heureusement, il y en a un qui ne doute de rien. Matteo Salvini, chef de la Ligue et ministre des Transports, signerait demain, s'il le pouvait, dit-il, pour engager son pays avec Starlink. Et non, ça n'est pas parce qu'il soutient Trump aveuglément, insiste-t-il.
Quand on parle de paix, de sécurité, de télécommunications, de sécurité nationale et continentale, peu importe qui on soutient. J'estime, comme tant de responsables des forces armées et de sécurité italiennes et européennes, que Starlink est le système technologique le plus avant-gardiste qui garantit les télécommunications ukrainiennes.
Giorgia Meloni étudie une autre option, explique Il Sole 24 Ore. Un concurrent français de Starlink, Eutelsat, mais avec ses 650 satellites, il est très loin des 7000 de Starlink. Salvini ne veut même pas en entendre parler. Pour lui, c'est clair, plutôt Musk que Macron. Et pourtant, Elon Musk, il commence à bien agacer en Europe, notamment en Pologne. La chaîne TVP raconte son échange avec le ministre polonais des Affaires étrangères.
Alors Elon Musk a écrit sur X, Starlink est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne, toute la ligne de front s'écroulerait si je l'éteignais. Ce à quoi Radoslav Sikorski a répondu, c'est le ministère polonais du numérique qui paye pour Starlink en Ukraine à hauteur de 50 milliards de dollars par an.
Elon Musk a répondu au ministre, calme-toi petit, vous ne payez qu'une infime partie du coût. Varsovie a moyennement apprécié.
L'Union européenne, Franceline, qui se cherche encore une figure de résistance et d'unité contre l'axe Moscou-Washington, et elle pourrait venir du département de l'Allier.
De l'Allier, oui, dans le centre de la France, territoire du sénateur Claude Malhuret. À 75 ans, il s'est fait remarquer la semaine dernière lors d'un débat sur la sécurité européenne.
Washington est devenue la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis.
Le président américain en prend pour son grade.
Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître.
Tout comme son vice-président, J.D. Vance.
Le planqué du service militaire donnait des leçons de morale et de stratégie au héros de guerre Zelensky, avant de le congédier comme un palefrenier, en lui ordonnant de se soumettre ou de se démettre.
Ce discours virulent est resté relativement inaperçu en Europe, jusqu'à ce qu'il soit repéré par le Huffington Post. Depuis, le sénateur a été interviewé par la BBC, la presse italienne, espagnole, estonienne, tchèque. Il est même invité au Forum mondial sur la démocratie à Berlin la semaine prochaine, entre le couple Clinton et la première dame ukrainienne, Olena Zelenska.
Le renouvellement du Parlement au Groenland a été dans toute la presse européenne.
C'est bien la première fois que les médias se passionnent pour une élection dans la région autonome. Il faut dire qu'elle est l'objet d'un bras de fer entre Washington et Copenhague depuis que Donald Trump a déclaré vouloir s'en emparer. Ce contexte a d'ailleurs dopé la participation. La coalition de gauche au pouvoir a été sanctionnée. Le centre droit devient le premier parti avec presque 30% des votes. Les nationalistes les plus virulents, ceux qui veulent rompre le plus vite possible avec le Danemark, sont deuxièmes, avec 24,5% des voix. Un journal catalan juge que l'Europe a intérêt à aider le Groenland à s'émanciper de son ancienne puissance coloniale, si elle ne veut pas qu'il lui échappe totalement.
Merci Franceline Beretti, à la semaine prochaine. Tempête fêtes dans les cuisines des grands restaurants britanniques. Un chef cuisinier renommé a déclaré au Times qu'il n'avait jamais vu de sexisme en cuisine. Immédiatement, 70 femmes travaillant dans la restauration ont tenu à partager leurs expériences de misogynie et de harcèlement. À Londres, Marie Billon est allée recueillir leurs témoignages.
Sadie Kehinde a 24 ans, elle est jeune, mais elle s'est déjà fait un nom dans le milieu de la cuisine londonienne. Elle est très sollicitée autour des stands de l'événement Women in the Food Industry, les femmes dans l'industrie de l'alimentation qui se tient dans le centre de Londres. Le sexisme en cuisine, elle connaît, elle en a déjà fait l'expérience au cours de sa courte carrière.
J'ai commencé dans une école de cuisine où il y avait principalement des hommes. Il y avait quelques filles, mais la plupart d'entre elles ont été dirigées vers la pâtisserie parce que c'est délicat. Je n'ai pas aimé ça. Moi, j'aime être dans la cuisine chaud bouillante en particulier.
Mais ce n'est pas le pire que Sadé a connu.
Un homme qui vous regarde avec insistance, des contacts gênants comme de légers effleurements, être touché alors que ce n'est pas utile. Et puis, ils passent à côté de vous mais posent tout leur corps sur vous. C'est très, très désagréable. Très, très désagréable. Et lorsque vous en parlez, on vous répond « Oh, mais il n'est pas comme ça. Oh. » Moi, je dis juste que c'est ce que j'ai vécu. Mais on me ferme la porte ou on ne me prend pas au sérieux. C'est très méprisant. Il faut élever la voix s'il n'écoute pas et en parler au RH.
L'homme que Sadé a accusé a été éloigné de la cuisine pour quelques mois, dit-elle, avant d'être réintégré. Sadé, elle, avait quitté son emploi entre-temps. Maintenant, elle travaille beaucoup avec Lara Luck.
Hi, my name is Lara Luck. I am a self-taught chef, recipe writer and food stylist that lives in the UK.
Lara Luck est chef, elle travaille dans un pub gastronomique et tient une fois par mois un supper club, un événement dînatoire itinérant centré sur la nourriture caribéenne. L'ambiance dans sa cuisine est sans comparaison, dit-elle.
Personne ne devrait se sentir mal à l'aise dans son environnement de travail, qu'il s'agisse d'une femme, d'un homme ou de n'importe qui d'autre. Les problèmes en cuisine sont la raison pour laquelle j'ai commencé à organiser mon supper club et aussi pourquoi j'aime travailler avec des femmes en cuisine. Pour moi, c'est important de faire le travail, mais aussi de s'amuser et de ne pas se stresser. Je ne comprends pas qu'on puisse penser qu'en harcelant et en criant sur quelqu'un, on va le faire travailler plus vite.
Lara raconte qu'elle est parfois rentrée chez elle en pleurs, mais qu'elle se fait un point d'honneur à ne jamais craquer en cuisine. Après la discussion publique, elle reste sobre sur ses propres expériences.
Il m'est arrivé à maintes reprises d'arriver dans une nouvelle cuisine et de faire des essais et d'être déjà éliminée avant même de commencer. Parce que vous êtes une femme et que c'est un environnement intense, il y a toujours l'idée préconçue que vous ne pouvez pas le gérer et que vous allez craquer.
Il y a l'environnement intense et puis il y a l'ambiance macho dans les cuisines. Il charrie, il chambre. Sauf que quand on est la seule femme, on est soit exclue, soit au contraire le cœur de ces plaisanteries. Et cette idée que les femmes sont des intruses dans le monde de la cuisine professionnelle peut parfois, assez souvent même, devenir inquiétant. C'est l'expérience que recueille Lucy Fleming de Safe Food Scores, une organisation centrée sur l'hygiène et la sécurité alimentaire.
L'une de mes collègues était inspectrice de l'hygiène dans les cuisines et elle se rendait donc dans des restaurants, etc. Elle a une fois été confrontée à un chef cuisinier qui s'est armé d'un couteau quand elle lui faisait part de ses remarques sur ses normes d'hygiène. Il n'était pas en train d'utiliser le couteau pour des légumes, il avait un comportement menaçant. Elle s'est plainte auprès du directeur de l'établissement mais n'en a plus jamais entendu parler. Et je crois que l'individu n'a jamais vraiment été inquiété pour ce qu'il a fait.
Toutes ici, cependant, sont assez positives. La nouvelle génération, femmes et hommes, est plus sensible à ce genre de problématiques et les voix se font entendre avec de plus en plus de force. Leur écho est aussi plus grand grâce aux réseaux sociaux.
Accent d'Europe était réalisé par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur le site de RFI, l'application Pure Radio et les réseaux sociaux. À bientôt.